Et bonjour et bienvenue, soyez les bienvenus dans Les Experts, il est 9h30, c'est Christina Louz et je suis ravie d'être avec vous jusqu'à 11h. Nous serons en direct avec notre expert jusqu'à 10h30, j'espère que vous allez bien. Toute l'équipe est là, hein, bien sûr, avec Théo à la technique, Patricia au standard. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche aujourd'hui 10% des enfants, l'obésité. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à témoigner et à participer en direct en composant le 04 95 32 22 22 ou directement sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Nous vous répondrons en direct.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Louzi.
Et selon l'OMS, près de 43 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids ou sont obèses. Il s'agit d'un problème mondial qui affecte de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, en particulier en milieu urbain. Près de la moitié de ces enfants âgés de moins de 5 ans vivent en Asie et près d'un quart en Afrique. Les enfants en surpoids et obèses risquent de rester obèses une fois adultes et sont davantage susceptibles de contracter des maladies non transmissibles telles que le diabète et maladies cardiovasculaires à un âge plus précoce. Alors, quelles sont les causes du surpoids chez l'enfant? L'obésité est-elle héréditaire et comment la prendre en charge? C'est un sujet que nous allons traiter avec nous, avec le professeur Patrick Tougnan.
Allô?
Oui, bonjour professeur.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Vous êtes docteur en sciences et un vrai spécialiste hein, pour le coup de l'obésité, puisque vous dirigez la formation universitaire obésité de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'obésité de l'enfant aux éditions John Libet Eurotext et l'obésité infantile, pourquoi on fait fausse route aux éditions Bayard. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors commençons par le commencement. Au cours de cette émission, professeur, nous allons parler obésité et surpoids chez l'enfant. Comment on distingue surpoids et obésité, justement?
Alors, c'est une question intéressante. C'est une question de chiffres, hein. C'est-à-dire qu'on a des limites. Par exemple, chez l'adulte, ça va être plus simple. Chez l'adulte, lorsqu'on divise le poids par la taille au carré, on obtient ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Lorsqu'il est entre 25 et 30, on parle de surpoids, et au-dessus de 30, on parle d'obésité. Chez l'enfant, on doit se référer à des courbes qui distinguent le surpoids et l'obésité. Ça, c'est pour la théorie, j'allais dire. En pratique, ça n'a aucune espèce d'importance. Il s'agit de la même physiopathologie, du même mécanisme qui mène au surpoids et à l'obésité, d'une part, et d'autre part, ce qui compte, c'est le ressenti du patient. C'est-à-dire qu'un jeune patient, une jeune patiente qui se trouve en surpoids, à peine en surpoids, et qui vient consulter, on va s'en charger. Inversement, un jeune enfant qui est obèse, qui ne demande rien à personne et dont les parents ne sont pas inquiets, on va le laisser tranquille. Donc ce qui compte, c'est pas de savoir s'il est en surpoids ou en obésité, c'est ce que le patient et sa famille souhaitent.
D'accord. Alors on a une première question, hein, décidément. Mon petit-fils a 10 ans, il mesure 1m40 et pèse 48 kilos. Pensez-vous qu'il est juste dodu ou qu'il est obèse? Nous demande Jeanne.
C'est un peu ce que je viens de dire,
oui.
Ça n'a pas d'importance, ça dépend comment...
Donc là,
Jeanne,
c'est qu'elle se pose déjà la question. Hein.
Pardon ?
C'est qu'elle se pose déjà la question, puisque...
Voilà. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. On a peur du mot obésité, et donc on a peur de passer du surpoids à l'obésité. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le ressenti qui compte, on va en parler au cours de l'émission, mais l'obésité... Et je utiliserai le terme obésité comme un thème générique, c'est-à-dire que je ne dirai pas à chaque fois surpoids et obésité. L'obésité chez l'enfant, c'est avant tout un problème psychosocial avec les conséquences psychosociales. Il y a très très peu de complications en pédiatrie, des complications concernent...
Ah, c'était une question, il n'y a pas de... D'accord. Non, parce que du coup, en préparant cette émission, donc j'ai bien vu hein, que du coup, on calculait pas un IMC chez un enfant. Hein, on se référait vraiment aux courbes de toit et de poids et de taille, et plus précisément à la courbe de corpulence, professeur.
Exactement. C'est-à-dire la corpulence, c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré.
D'accord. C'est même valable chez l'enfant, donc.
C'est valable chez l'enfant et on va le placer, ce chiffre qu'on va obtenir, sur la courbe de corpulence et on va savoir à quel niveau de corpulence l'enfant se trouve et donc pouvoir distinguer le surpoids de l'obésité. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est le ressenti. C'est vraiment ce que le patient, donc l'enfant, souhaite quand il est en âge de s'exprimer et l'inquiétude des parents. ça n'a aucune importance de savoir s'il est en surpoids ou obésité. Je crois qu'il faut se retirer de ça de la tête. Ça reste, encore une fois, une maladie, ou pardon, un état dont les conséquences sont psychosociales, et donc c'est de ça dont on va se préoccuper, et non pas de la santé de l'enfant, qui est très très peu impactée par l'obésité à cet âge.
Oui, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai lu plusieurs études épidémiologiques. Alors, il y a une étude allemande qui expliquait que 90% des enfants gros avant l'âge de 5 ans allaient le rester. Une autre étude qui contredisait cette thèse et qui révélait que cela, finalement, ne concernait que 50% des enfants. Et puis, la même étude qui disait que plus de la moitié des enfants gros avant l'âge de 2 ans ne le restaient pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, est-ce qu'il existe vraiment une relation entre le poids d'un enfant et son poids à l'âge adulte? Et est-ce que cela veut dire qu'un enfant obèse, même si il faut d'abord se préoccuper, on a compris, de ce qu'il ressent, mais est condamné à devenir un adulte obèse? Et si est-ce que oui, est-ce que tout se passe, oui ou non, avant 5 ans?
Alors, tout d'abord, je vous félicite, vous préparez toujours très bien vos émissions.
Merci,
et
professeur.
Là, vraiment, vous avez lu tout ce qu'il fallait, mais vous n'êtes pas contenu à une seule étude. Alors, effectivement, une étude allemande récente qui est assez alarmiste, mais ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est quand on reprend plusieurs études et qu'on fait la moyenne, on va dire, ce qui est beaucoup plus sérieux qu'une seule étude. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que, avant 2 ans, la grande majorité, on va pas donner de chiffres, mais la grande majorité, plus des 3/4 des enfants gros ne le reste pas. Donc il y a une évolution spontanément favorable. Avant 5 ans, on est à peu près 50-60%, c'est-à-dire 50 à 60% des enfants gros avant 5 ans ne le restent pas. Il s'agit là encore d'une évolution spontanément favorable. Le problème se corse, c'est le cas de dire sur votre antenne, après 10 ans, où à peu près 3/4 des enfants gros vont le rester à l'âge adulte. Donc, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? C'est que un jeune enfant, surtout avant 2 ans gros, on va le laisser tranquille. Avant 5 ans, on va aussi pas trop l'embêter. Après 10 ans, les risques qu'il reste gros à l'âge adulte sont importants et il faut bien sûr en informer les parents et faire quelque chose si les parents et l'enfant le souhaitent.
Alors, on a une question de Marie qui nous dit « Ma fille de 8 ans est obèse, pensez-vous qu'elle le restera toute sa vie ?» Alors pour le coup, c'était dans ce qu'on était en train de dire. Donc, des chances du coup, professeur.
Elle a 8 ans, c'est ça?
Oui.
Alors, à 8 ans, on va dire qu'elle a effectivement, statistiquement,
oui, statistiquement,
plus de chances de rester obèse que de ne plus l'être. Après, ça dépend aussi beaucoup, on va en parler largement, mais l'obésité chez l'enfant, c'est une maladie constitutionnelle, c'est sa nature, c'est génétique, donc c'est pas vraiment ce qu'elle va manger ou mal manger, c'est vraiment la transmission génétique de ses parents. Donc, si l'un de ses deux parents est obèse, on va voir comment l'obésité des parents a évolué, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient gros à 8 ans et qu'ils ont minci dans les années qui ont suivi, ou est-ce qu'ils ont toujours été gros? Souvent, les enfants suivent l'évolution de l'un de leurs parents, celui qui a transmis la surcharge pondérale, c'est-à-dire celui qui est gros, pour être très clair.
Et du coup, on voit qu'il y a vraiment des facteurs génétiques, on va en parler. Est-ce que lorsqu'on est obèse, est-ce qu'il faut se préoccuper justement du poids de son enfant, même avant qu'il naisse?
Non, faut justement laisser la nature faire, et ensuite, ça va être surtout lorsque l'un des deux parents est gros, eh bien, on va être très simpliste, hein, mais il y a à peu près un risque sur deux, une chance sur deux, on va dire que l'enfant est hérité de la même génétique, et donc est, comme son père ou sa mère, une surcharge pondérale. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne disposons d'aucun moyen de prévention efficace. Donc, se préoccuper, ça va angoisser tout le monde. Et
oui,
malheureusement,
c'est angoissant, bien entendu.
Nous n'avons pas de moyens pour contrecarrer cette évolution. On cherche, on va en trouver.
On
va
espère.
En parler peut-être, mais il y a des nouveaux traitements.
Oui, on va en parler.
Il y a des nouveaux traitements qui vont être révolutionnaires. Et dans les décennies qui viennent, on trouvera les moyens. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a aucun moyen pour prévenir l'obésité de l'enfant.
Alors, je vous dis, hein, j'ai lu beaucoup de choses. Et j'ai lu aussi que le caractère précoce... alors, je sais que vous n'êtes pas forcément pour. J'ai lu qu'il fallait faire attention à une augmentation de la corpulence entre 0 et 1 an. Est-ce que c'est vrai?
Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement... on a un lien statistique entre la prise de poids au cours des premiers mois de vie, donc vous avez dit entre 0 et 1 an, c'est même un peu plus précoce, c'est les tout premiers mois de vie, et le risque d'obésité ultérieure. Donc le lien statistique, ça veut dire que lorsqu'on prend beaucoup de poids au cours des premiers mois de vie, eh bien on a plus de risques d'être gros plusieurs années plus tard. Et donc beaucoup pensent que c'est parce que l'enfant a pris beaucoup de poids au cours des premiers mois de vie qu'il devient gros plusieurs années plus tard. Or, c'est l'inverse. C'est parce qu'il a une génétique qui le prédispose à l'obésité qu'il va prendre beaucoup de poids au cours des premiers mois de vie. En d'autres termes, cette prise de poids précoce n'est pas une cause de l'obésité ultérieure, mais simplement son expression précoce. Et donc malheureusement, c'est pas parce qu'on va limiter la prise de poids au cours des premiers mois de vie qu'on va l'empêcher de devenir obèse plusieurs années plus tard, puisque c'est déjà l'expression précoce de sa génétique.
Voilà, donc on va poursuivre là-dessus. On va tout de suite faire une petite pause musicale. N'hésitez pas à nous appeler, hein, 04 95 32 22 22 ou continuez à nous envoyer vos messages sur les réseaux sociaux. Notre expert, le professeur Patrick Tounian, vous répond en direct. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning.
Robin Thicke, Blue Red Line sur RCFM. Alors, on va reprendre tout de suite les experts. Hein. Alors, on parle aujourd'hui obésité de infantile. Hein. Alors, est-ce que l'obésité est héréditaire? Comment la prendre en charge? Quelles sont les causes du surpoids chez l'enfant? Et on parle de tout ça avec notre expert du jour, le professeur Patrick Tougnon. Vous êtes chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau, docteur en sciences. Et vous êtes un spécialiste de l'obésité. Vous dirigez la formation universitaire Obésité de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, professeur, on parlait du caractère précoce hein, de la détection de l'obésité. Vous disiez qu'il fallait surtout prendre en compte ce que l'enfant ressentait. Donc, on a une question auditeur qu'on va prendre tout de suite après. Mais j'ai une question avant. On parle bien d'un enfant obèse et pas d'un bébé obèse. Alors, il n'est pas question d'obésité avant un certain âge ?
Théoriquement, on pourrait parler d'un bébé obèse, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% environ des enfants gros avant 2 ans ne le restent pas, évoluent spontanément favorablement. Donc un bébé obèse, c'est-à-dire avant 1 an, on va le laisser tranquille. Voilà, le message est simple, un bébé gros avant 1 an, on le laisse tranquille.
Voilà, c'est très clair, foutez la paix à vos enfants. Alors on le disait, il était très important hein, de tenir à jour la courbe de croissance de son enfant pour veiller à un élément important, c'est le rebond d'adiposité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur ?
Alors, le rebond, l'adiposité, c'est quoi? C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'IMC, l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. Donc, cet indice, il augmente de la naissance à 1 an, puis à partir d'1 an, il diminue, et il rebondit à 6 ans pour remonter. Et donc, l'âge de rebond normal, on va dire, est à 6 ans. Chez les enfants qui vont devenir obèses, cet âge de rebond est plus précoce, et il intervient vers 3 ans, en moyenne.
Et donc on va voir la courbe qui va décrocher, qui va s'envoler.
Voilà.
Quoi.
Qui va rebondir vers 3 ans au lieu de 6 ans. C'est l'expression précoce de l'obésité et donc on peut savoir à ce moment-là que l'enfant a des grands risques de devenir obèse. Malheureusement, certains préconisent de surveiller ce rebond pour mettre en place des moyens au moment du rebond. Aujourd'hui, on sait que on n'a aucun moyen pour prévenir l'obésité. Et donc, notre équipe ne préconise pas la surveillance de l'IMC, ce qu'on appelle l'IMC, parce qu'on va amener des angoisses plutôt qu'autre chose, sauf si les parents le souhaitent. Si les parents disent, moi je suis gros, je voudrais savoir si mon enfant a des risques de devenir gros, dans ce cas-là on va surveiller pour les informer. Mais pas le faire de manière systématique, comme malheureusement certains le proposent, parce que ça va amener des angoisses absolument terribles, et surtout, je le répète, on n'a aucun moyen pour éviter l'évolution défavorable. On est dépourvu aujourd'hui de moyens pour agir dans la prévention de l'obésité.
Et justement, un facteur de stress hein, à cet âge-là, à 6 ans, ça peut provoquer justement peut-être l'effet inverse et le fait que l'enfant mange encore plus.
Alors, la régulation du poids est telle que il va y avoir une régulation, quel que soit le stress. Le stress chez l'enfant, il faut savoir que dans la majorité des cas, ça le rend anorexique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas prendre de poids.
C'est ce que ça me fait à moi, en fait. Quand je suis stressée, je ne prends pas 1 gramme.
Et ben, voyez,
je suis comme les enfants.
Vous êtes très mince déjà, et vous avez un petit peu plus qu'un an.
C'est ça, juste un petit peu plus. Non, mais donc du coup, ça crée le facteur inverse. Et ça crée de l'anorexie chez un enfant.
Globalement, le stress chez l'enfant, quel que soit l'âge, le rend plutôt anorexique.
D'accord. Alors, j'ai une question. Ma pédiatre a déclaré devant mon fils de 3 mois qu'il avait des signes précurseurs d'obésité. Je l'allaite, que faire ?
Changer de pédiatre. Non, c'est méchant ce que je dis.
Immédiatement. Maria, vous changez de pédiatre.
Non, mais c'est pas bien de dire ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 80% des enfants gros avant 2 ans ne vont pas le rester. Et si on passe dans les premiers mois de vie, on est à 3 mois ici, surtout un enfant allaité. Les risques pour qu'il reste gros sont très faibles. Ce qui va compter, c'est peut-être pour ça que la pédiatre a dit ça, c'est si la mère ou
si
le père.
La mère et le père. Oui, voilà. Donc Maria, c'est intéressant que vous nous disiez si vous nous écoutez ou que vous me renvoyez un message sur nos réseaux sociaux pour savoir si vous avez des soucis de poids vous ou votre mari. Parce que à un moment donné, professeur, l'allaitement maternel, il faisait partie des mesures de prévention de l'obésité.
L'allaitement maternel est souvent présenté comme une mesure de prévention. Je pense déjà, je suis un grand promoteur de l'allaitement, il faut que les mamans allaitent. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen pour affirmer que l'allaitement protège contre l'obésité. Je crois que, c'est ce que je dis toujours dans mes conférences, promouvoir l'allaitement, c'est biblique. On n'a pas besoin de démontrer que l'allaitement est meilleur pour la santé de l'enfant. C'est une évidence. Et donc, on n'a pas besoin...
Il y a des laits maintenant qui se font... Pardon, je vous coupe, professeur, mais il y a quand même des laits maintenant qui font le job, quoi.
Oui, mais il y a des laits qui se rapprochent du lait de mère, mais l'idéal, c'est d'allaiter. Ça, on ne va pas dire le contraire, quelles que soient les raisons. Maintenant, il y a des mamans qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas allaiter, il ne faut pas les culpabiliser, et effectivement préciser que les laits infantiles aujourd'hui se sont beaucoup améliorés, se sont rapprochés de la composition du lait de mère, mais pour l'instant, ils n'ont pas atteint la qualité du lait de mère.
Non, bien sûr. Alors, vous disiez tout à l'heure, mon équipe, c'est vrai que quand on prend en charge un enfant obèse, c'est pas qu'un diététicien, qu'un pédiatre, il y a aussi la dimension psychologique qui entre en jeu.
Vous avez tout à fait raison. Alors nous, on a de la chance, puisque tous les enfants qui viennent consulter dans le service voient à la fois un pédiatre, une diététicienne et une psychologue. Tout le monde n'a peut-être pas cette chance-là. Et la part psychologique dans l'obésité est terrible. Non pas comme étant la cause de l'obésité, mais pour les conséquences.
Avec en rapport aux autres.
Exactement. Le regard des autres, le regard qu'il porte sur lui-même, ça fait beaucoup de mal. La souffrance morale de l'obèse est extrême, surtout quand il grandit. Et donc, le soutien d'un psychologue est absolument essentiel. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si on voit un enfant arriver chez nous, triste et gros, et qu'il ressort de notre consultation toujours aussi gros, mais moins triste, on est déjà dans la voie du succès thérapeutique.
Alors, on parle souvent, on en parle maintenant, des conséquences de l'obésité chez l'adulte. Est-ce qu'on peut parler de risques associés, de maladies de façon précoce chez les enfants obèses, autres que les maladies orthopédiques au niveau des hanches? Je pense notamment au diabète de type 2.
Ça, c'est une question très importante. Les complications de l'obésité chez l'enfant, les complications somatiques comme le diabète, vous l'avez cité, ou d'autres complications, sont très, très rares. Et il ne faut pas faire de lien entre ce qui se passe à l'âge adulte et ce qui se passe chez l'enfant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore plus important, ce n'est pas parce qu'on va prendre en charge précocement un enfant obèse qu'on va éviter qu'il ait des complications à l'âge adulte. En d'autres termes, si on fait maigrir un enfant entre 10 et 15 ans, on va dire, c'est pas pour ça qu'à 30-40 ans, il n'aura pas de diabète. Ce qui va compter, c'est pas qui va se passer durant l'enfance, c'est ce qui va se passer à 30-40 ans. Donc pour être plus clair, il vaut mieux, entre guillemets, qu'un enfant ne maigrisse pas pendant les 20-30 premières années de sa vie, puis à 30 ans se mette à maigrir, que l'inverse.
D'accord.
Parce que ce qui va compter, c'est de pouvoir maigrir à l'âge adulte. Donc ce qui se passe durant l'enfance n'influe absolument pas sur le pronostic des complications à l'âge adulte. Ce que pour nous, pédiatres, est plutôt bien, parce que ça nous détend. Notre but, c'est vraiment améliorer la qualité de vie de l'enfant, toutes les difficultés qu'il a, sans se préoccuper de l'avenir de cet enfant.
Alors justement, professeur, qu'on comprenne bien, à partir de quel âge vous conseillez, on a bien compris, c'est à la demande, mais à partir de quel âge vous pensez qu'il faut commencer à agir sur l'obésité?
Quand les parents le souhaitent et quand l'enfant est en âge de s'exprimer, quand lui le souhaite également.
Parce que c'est vrai que quand il rentre à l'école, on parlait de la dimension psychologique, on sait que les enfants ne sont pas forcément très tendres entre eux. C'est à ce moment-là que vous avez le plus de demandes, entre guillemets?
On en a, alors, pour les enfants très très jeunes, c'est-à-dire avant 8-10 ans, ce sont exclusivement les parents qui viennent faire des demandes parce qu'ils sont inquiets, souvent d'ailleurs parce qu'eux-mêmes ont souffert de ce problème-là. Avant 8-10 ans, un enfant ne sait pas pourquoi il est à la consultation et il écoute poliment, mais il n'a aucune notion de ce qui est en train de se passer. On fait quand même quelque chose, mais les chances de succès sont assez faibles. À partir de 8-10 ans, ça dépend de la maturité des enfants, là il y a une demande parfois de l'enfant lui-même, donc l'enfant et de l'adolescent. Là c'est un peu plus simple, et donc on prendra en charge un enfant, soit avant 8-10 ans lorsque les parents viennent nous l'amener, soit après 8-10 ans, lorsque l'enfant lui-même cherche à maigrir. Donc, je ne réponds pas à votre question parce qu'il n'y a pas d'âge idéal. Encore une fois, si un
enfant... C'est vraiment parents, à la demande.
Voilà, parce que si les parents ne veulent pas, c'est pour ça qu'on est absolument opposé au dépistage systématique, mm-hmm. parce que vous avez un enfant de 5-6 ans qui est gros, son pédiatre détecte une obésité, il l'envoie à un spécialiste, mais les parents ne demandent rien à personne, l'enfant il ne sait même pas pourquoi il est là, les chances de succès sont absolument nulles. Donc tout le monde va perdre son temps. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre une demande des parents et ou de l'enfant.
C'est très très clair, merci professeur. On va faire une petite pause musicale avant de faire un point sur l'actualité. Et puis on se retrouve tout de suite après pour parler obésité. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez témoigner ou nous appeler pour poser vos questions au professeur Patrick Tounian, 04 95 32 22 22, ou continuez à m'envoyer vos messages sur les réseaux sociaux.
Nada le montagne, in silo galtagni, nada li paesi, alle le pali appesi, mezza li bastori re di la natura, e la è come un fiore, e fa vela pura. Ado lingua è, un tesoro è, chi ciò la parla, via ci piace, e te ne la contu, e da tramanda, ali dovi oli per l'uso gampa. Lingua i buedi, e di modercani, lingua i devole, di quelli che sanno tutte le passate di la nostra storia, tutti li gran fatti. Quelli di a memoria. Ado lingua è un tesoro è, chi ciò la parla, via ci piace, e te ne la contu e da tramanda, ali dovi oli per l'uso gamba. Lingua iuzi de lu chi la mamma ige, si lu moglio e lu è l'userri nadu per la onna amata. Lingua i l'amore, lingua i l'ugore. Ado lingua è un tesoro è, chi ciò la parla, via ci piace, e te ne la contu e da tramanda. Arido violi per l'uso gamba. Ado lingua è un tesoro è, chi ciò la parla, via ci piace, e te ne la contu e da tramanda. Arido violi per l'uso gamba. Per l'uso gamba.
Te la di l'alba, lingua è.
Vous avez plus de 18 ans et vous êtes en tutelle ou curatelle? Vos droits changent. Vous êtes libre de voter aux élections. Vous pouvez aussi vous marier ou vous paxer avec la personne que vous aimez, simplement en informant votre tuteur ou curateur. Parlez-en à vos proches. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur justice.fr.
Salute di Arrigo Almeida. A parte si di 1 e di settembre, ogni giorno, le radio mio barré sopra l'attualità in Corsica e in altro, sopra ciò che mi impreme e che forse impreme di nuovo a voi, e sopra i buttati. Chi questi, soprattutto un de noi, danno una piazza maiò, dunque tutto ci passa. L'Amazonia, i fuochi temporali e personalità politica e culturale, ogni pezzo d'attualità sarà sfruttato. Infine, a me mi pare.
Avec Hertz Utilitaire, location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
En fait, un petit coup d'œil du côté du ciel pour aujourd'hui. Le temps est bien ensoleillé avec juste quelques nuages l'après-midi. Établissement au milieu d'après-midi d'un vent d'est modéré sur la Castaniche. Atténuation ensuite. Température maximale comprise entre 26 et 29 degrés et 24 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Caroline Philippi, bonjour.
Bonjour, c'est la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille qui s'est saisie de l'enquête sur l'assassinat hier de Hicham Safour. Ce promoteur immobilier âgé de 47 ans a été assassiné hier matin à Fouriagne. Il a été abattu dans son véhicule à proximité d'un chantier qu'il supervisait. Il aurait été atteint par des tirs de gros calibre. Une fourgonnette de type Kangoo a été retrouvée entièrement calcinée en bordure de route à quelques kilomètres des lieux de l'assassinat. Il pourrait s'agir de celle des tireurs. La victime était connue des services de police pour sa proximité avec plusieurs membres du grand banditisme. Elle avait été relaxée en 2016 dans une affaire de cache d'armes, dossier dans lequel il était jugé aux côtés de Jean Angelo Guazzelli et de Christophe Andréagne. Des prises de position dans les cadres des municipales à Bastia, réunies hier soir en Assemblée Générale pour examiner la situation politique et décider de sa stratégie. Le MCD de François Tati apporte son soutien à la candidature de Jean-Sébastien de Casalte. L'avocat Bastier l'a annoncé la semaine dernière. Dans un communiqué, le mouvement dit se reconnaître dans la démarche initiée et a décidé de la soutenir et d'y contribuer en souhaitant que d'autres forces politiques et personnalités viennent l'enrichir et la confronter. Puis justement, soutien également de François Hollande. Il apporte, je cite, son soutien à une personnalité dont la loyauté a toujours été le maître mot de l'action, a indiqué le conseiller territorial et ancien président du Conseil général de la Haute-Corse. La Chambre de commerce de Corse du Sud veut réduire la pollution des navires à quai. L'ennemi, c'est le soufre qui est rejeté par les fumées. La solution, c'est le branchement à quai. Il devrait être installé sur le port d'Ajaccio dès l'an prochain. Pour l'heure, seuls 4 navires sur les 16 qui desservent la Corse peuvent se brancher. Les autres ne sont pas équipés. Pourtant, les seuils autorisés d'émission vont être réduits dans les mois à venir. À compter du 1er janvier, tous les navires seront soumis à la même limite à quai, c'est-à-dire 0,1% en moyenne pour les émissions de soufre, et ce, pour les escales de plus de 2 heures. Et puis direction l'étang d'Ourbine, où un sentier aménagé de 900 mètres a été inauguré hier sur la presqu'île d'Isoula-Longue, sur la commune de Guisenach. Un sentier qui vient compléter l'aménagement de ce site de 790 hectares, acquis en 2007 par le Conservatoire du Littoral. L'objectif, c'est de trouver un équilibre entre aménagement public et préservation de l'environnement. Son coût, 240 000 euros, financé par le programme européen Leader, la collectivité de Corse et l'agence de l'eau.
Merci Caroline, on se retrouve à 11h.
Mamie, tu veux voir mon beau dessin ?
Oui, j'aimerais bien, mais là, il faut que tu me passes mes lunettes.
Mieux voir, c'est important, comme mieux entendre, mieux sourire aussi. Et c'est pour ça que Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale, va pour vous plus loin. Optique, audition, dentaire, avec sa garantie santé Protec Via, ses services et tous ses ateliers prévention, Via Santé fait toujours mieux pour votre santé. Et en plus, en ce moment, pour toute nouvelle adhésion, 3 mois offerts sur votre garantie santé, selon conditions.
Plus d'informations sur viasante.fr.
Nous sommes un lien.
Un lien entre les gens.
Un lien de confiance et de solidarité.
Qui permet à tous de veiller sur chacun.
Nous sommes aussi un lien qui va plus loin.
Une nouvelle mutuelle dont le rôle n'est pas seulement de rembourser vos frais de santé.
Mais aussi et surtout de vous aider à vivre mieux.
Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble.
Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle.
Qui se construit pour et avec vous.
Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, numéro Oria 1600-6968. Plus d'informations sur aesio.fr.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000! Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Votre émission à réécouter sur bleurcfm.fr.
France Bleu RCFM. France
Bleu. RCFM, Christine Alouzi, les experts.
Oui, bonjour à tous et soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez dans les experts. Il est 10h05 et c'est Christine Alouzi. Je suis ravie d'être avec vous jusqu'à 11h et nous serons en direct avec notre expert du jour jusqu'à 10h30. On parle aujourd'hui obésité infantile, en finir avec les fausses idées. N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions et à réagir en composant le 04 95 32 22 22. C'est Patricia qui vous accueille au standard ou directement en m'envoyant vos messages sur vos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et je vous le disais, je suis aujourd'hui en compagnie du professeur Patrick Tounian pour répondre à toutes vos questions. Alors, professeur, vous êtes chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris et un vrai spécialiste de l'obésité puisque vous dirigez la formation universitaire obésité de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'obésité infantile. Alors, professeur, on parlait tout à l'heure, on avait un message auditeur qui nous disait qu'un pédiatre avait déclaré devant son bébé de 3 mois qu'il était obèse et vous parliez du caractère anxiogène que pouvait avoir de tels propos. Si vous aviez un conseil justement en tant que professeur et qu'expert de la chose pour les professionnels et pour les parents, c'est vraiment de déculpabiliser l'enfant.
Oui, c'est très très important. Pour mes confrères, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent de devenir alarmistes, d'être alarmistes avec l'obésité de l'enfant. Bon, c'est pas vraiment de leur faute, parce que malheureusement beaucoup...
Il y a tout qui est fait pour.
Pardon ?
Je dis, il y a tout qui est fait pour.
Absolument. Alors que ce soit les médias, pas vous, vous êtes mieux, mais il y en a d'autres qui disent beaucoup de bêtises, mais aussi, ce qui est pire, des confrères, des collègues qui alarment beaucoup autour de l'obésité, et bien évidemment, les pédiatres sont très alarmistes. Encore une fois, ça n'est pas une situation grave chez l'enfant. Et c'est pas parce qu'on va être efficace ou inefficace durant l'enfance que l'enfant va rester gros à l'âge adulte. Donc il faut se préoccuper de la souffrance morale de l'enfant et de sa famille. Et surtout, ni culpabiliser, ni angoisser en disant qu'un enfant de 3 mois est gros. Même si la maman est grosse, il faut tranquillement attendre que ce soit les parents qui viennent demander au pédiatre et non pas l'inverse. C'est très très important.
C'est-à-dire que dans votre cabinet, vous ne faites pas de détection, entre guillemets, de l'obésité. C'est vraiment à la demande des parents.
Alors nous, on est un service spécialisé, donc on nous envoie les patients. Mm-hmm. Mais c'est des conseils qu'on donne à nos confrères, c'est d'arrêter cette angoisse qui tourne autour de l'obésité avec cette courbe qu'on dessine dès la naissance. On détecte précocement l'âge de rebond dont on a parlé tout à l'heure. On angoisse les parents et puis surtout, malheureusement, on n'a aucun moyen. Certains vont m'écouter en disant « c'est pas vrai, moi j'ai pris en charge un enfant vers 2-3 ans et grâce à ma prise en charge, l'enfant a perdu du poids ». Je rappelle qu'avant 2 ans, 80% vont avoir une évolution spontanément favorable et avant 5 ans, 60% vont avoir une évolution favorable. Donc quand un confrère pense avoir été efficace, c'est tout simplement qu'il a peut-être accéléré une évolution spontanée qui, quoi qu'il arrive, serait survenue et donc ils ont angoissé les parents sans véritablement être efficace. Donc, encore une fois, mon message, ne culpabilisons pas, n'angoissons pas. Les parents sont suffisamment angoissés autour de l'obésité avec tout ce qu'ils entendent. Je crois qu'il ne faut pas qu'on entre dans ce jeu-là, nous, médecins.
Et d'ailleurs, vous le dites dans vos conférences, professeur Hein, qu'interdire les McDo, le Coca et les pizzas chez les enfants obèses, c'est de la maltraitance. Pourtant, c'est pas ce qui se fait de mieux.
Alors, je le dis effectivement de manière presque provocatrice. Il n'y a bien sûr aucun lien entre la consommation de pizza, de fast-food ou de soda et l'obésité. C'est quelque chose qu'on croit et les patients que je vois, moi, en consultation, les parents me disent « Écoutez, je comprends pas, docteur. Mon enfant, il va jamais au fast-food, il boit jamais de soda, il mange jamais de bonbons, je lui interdis de manger des pains au chocolat, etc., etc. Et il est toujours gros. » Donc, ces pauvres gamins sont traumatisés parce qu'ils vont dans un fast-food, on leur demande de prendre une salade, ou bien quand ils ne prennent pas une salade et qu'ils prennent un cheeseburger, on les regarde de travers.
C'est pour ça que tu es gros.
Exactement. Donc, c'est pour ça que je parle de manière presque provocatrice de maltraitance, même si scientifiquement ça n'est absolument pas provocateur. Et je le dis très clairement, si demain on supprimait tous les fast-foods de la Terre, pas un seul enfant perdrait un gramme.
Il y aurait toujours des gens obèses.
Absolument.
Parce
donc,
que,
c'est traumatisant et surtout inutile de penser ça.
Et du coup, les obèses n'ont pas forcément, obligatoirement, de mauvaises habitudes alimentaires.
Je dirais même que ceux que je vois ont corrigé certaines, se sont mis en restriction et, comme je vous l'ai dit, ont supprimé certains éléments. Les enfants obèses deviennent obèses parce qu'ils mangent plus. Ils ont davantage faim. Ils sont programmés génétiquement pour grossir, donc pour avoir davantage faim. Et donc, c'est sûr qu'ils sont attirés par les aliments et, quitte à manger, ils préfèrent manger ce qu'ils préfèrent, c'est-à-dire des aliments que j'ai cités, plutôt que de se gaver d'épinards et de brocolis.
Mais oui.
Humains. Donc on croit qu'ils sont plus gourmands que les autres, plus laxistes que les autres, qu'ils ont moins volonté que les autres. Mais encore une fois, rappelons-le, c'est une programmation génétique qui les pousse à devenir gros. Inversement, les enfants minces, eux, vont être programmés pour manger très très peu et ils vont s'arrêter, il leur reste 2 morceaux dans l'assiette, il leur reste 30 ml dans le biberon, ils n'ont plus faim, ils s'arrêtent. C'est une régulation qui est absolument parfaite à cet âge-là. Et donc, il faut bien distinguer ces enfants gros qui sont programmés pour manger davantage des autres qui sont programmés pour manger moins. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des différences. Mais il faut bien voir, faut inverser cause et conséquence. C'est parce qu'ils sont programmés pour manger beaucoup qu'ils mangent beaucoup. Et non pas parce qu'ils mangent beaucoup qu'ils deviennent gros. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, oui, non, mais c'est ça qui est important parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Enfin, on n'appuie pas assez sur le fait que ça vient vraiment de la génétique et comme vous le dites, voilà, il vaut mieux culpabiliser en disant et tu manges trop et tu manges mal et tu bois trop de coca et tu manges trop au McDo plutôt que d'aller vraiment voir les causes. On a une question d'un auditeur, mon fils de 7 ans est en surpoids, que faire pour lui réapprendre à manger sachant qu'elle n'aime ni les fruits ni les légumes?
Alors c'est une question intéressante. Déjà, on peut, d'abord beaucoup d'enfants n'aiment pas les fruits et les légumes, et on peut tout à fait maigrir sans manger de fruits et de légumes. C'est plus facile, bien évidemment, parce qu'on augmente les volumes sans augmenter beaucoup les calories, mais on ne va pas le forcer à manger des légumes s'il n'aime pas ça. Donc comment on ne va pas lui réapprendre à manger, on va simplement le mettre en restriction. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que il est programmé pour manger plus. Il va avoir faim jusqu'à temps qu'il ait atteint son niveau de satiété qui est plus élevé que les autres enfants. Donc, pour le faire maigrir, il va pas manger mieux, il va manger moins. Mais c'est comme vous qui êtes mince, si je vous dis tout d'un coup, vous allez vous arrêter au milieu du repas alors que vous avez encore faim, vous allez me dire, mais j'ai encore faim. Oui, mais si vous voulez maigrir, c'est la seule solution. Eh bien, l'obèse, c'est la même chose, sauf que lui, il a un niveau de satiété qui est beaucoup plus élevé, donc on va l'arrêter. Enfin, il y a d'autres techniques, hein, mais je suis très simpliste. On va l'arrêter avant qu'il n'ait atteint la satiété complète, mm-hmm. Et donc c'est extrêmement frustrant. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir manger à sa faim. Et c'est la seule façon de maigrir. Mais ce n'est pas une question de qualité alimentaire. On ne va pas lui réapprendre, d'accord, à mieux manger.
Donc
ce
n'est pas la peine lui apprendre à réintroduire des fruits et des légumes dans son alimentation.
C'est plus facile de faire un régime restrictif quand on mange des légumes. Maintenant, si l'enfant ne veut absolument pas manger de légumes, on va se débrouiller autrement. Il faut notamment nettement augmenter les produits carnés, mm-hmm, qui vont avoir un double avantage. Un effet rassasiant.
Oui.
Et deux, amener le fer dont l'enfant a besoin.
D'accord. Bon, voilà, donc vous n'êtes pas obligé de réintégrer des légumes et des fruits, bien que ce soit conseillé.
Plus simple.
Plus simple et plus conseillé, on entend tous les jours manger 5 fruits et légumes, on en parlera, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on en parle beaucoup aujourd'hui. On a une auditrice en ligne, on va la prendre tout de suite.
Ah, très bien.
Cathy, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, je voudrais témoigner justement sur l'obésité parce que, en effet, j'ai 3 enfants et mon petit dernier était prédisposé à bien manger, il était gourmand en fait. Et donc, et je voyais qu'il prenait régulièrement du poids et très vite. Alors ça m'a inquiétée, j'ai consulté et puis rien n'y faisait. J'ai commencé à mettre des menaces, voilà, carrément des menaces, en disant que tous les lundis, il y aurait la pesée et que si je voyais qu'il prenait du poids, eh ben, il serait puni de ça, enfin de tout ce qu'il pouvait aimer, je lui supprimais. Donc au début, ça a été assez difficile. Le lundi, étant donné qu'il était en scolarité, donc il savait très bien les jours de la semaine, il fuyait pour éviter de passer sur la balance. Et il continuait à grossir. Donc après, comme j'habite dans un petit village, donc ça m'a été facile de faire le tour pour pas qu'on lui donne des bonbons et tout. Et donc j'ai mis ça en place. Et puis après, le lundi, comme un fait exprès, il commençait à maigrir. Et régulièrement, et après c'était devenu un jeu. Et si bien que mon fils, actuellement, il a un poids tout à fait normal. Il ne se sent pas privé. Je lui ai appris à manger de façon ludique et il a retrouvé son poids de pain. Bon, ça s'est pas fait en un jour, en un mois. Ça s'est fait tout au long de l'année et tout le long de l'année, il a perdu ses 10 kilos qu'il avait en excès. Donc, je pense que c'est bien d'être entouré, mais la famille y est pour beaucoup. Parce que si je m'en étais référée au grand-père, aux grand-mères, mais non, ça va se passer, il a faille. Et non, non, c'est pas les aider.
Il vaut mieux faire envie que pitié, les grand-mères ici, c'est ça. Hein.
Et prenez sur vous, même si ça fait de la peine de les voir privés, mais je vous assure que ça vaut le coup.
À quel voilà. âge, à quel âge vous avez dire. Agi, Cathy?
Pardon?
À quel âge vous avez agi?
Allô?
Oui, allô? Vous avez peut-être une mauvaise connexion. À partir de quel âge vous avez agi?
À partir de 7 ans.
À partir de 7 ans. Juste, professeur, une réaction.
Madame, oui, allez-y. Est-ce que vous ou votre mari êtes gros?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de gros à la maison. Pas du tout. Voilà. On est très hygiène, de vie. Donc, il n'y avait pas de gros. Non, il était.
Vous n'avez jamais été gros. Vous n'avez jamais été gros.
Non, il n'y a pas de gros, non.
Mais même quand vous étiez enfant?
Non, 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 non.
D'accord. Donc, vous voyez, vous entrez parfaitement dans le cadre de ce que je vous ai dit. Donc, si j'ai bien compris, votre enfant avait 6-7 ans. Vers 6-7 ans, à peu près 50% des enfants ont une évolution spontanément favorable. Donc, vous êtes probablement dans ce registre-là. Vous avez probablement accéléré cette évolution favorable. Mais vous voyez, aucun antécédent familial, personne n'est gros dans la famille. Lui, c'était le petit dernier, peut-être qu'il avait pris un peu de poids, mais la nature ensuite fait son travail et il a repris un poids naturel. Et sincèrement, moi qui ai une énorme expérience de l'obésité, faire perdre 10 kilos à un enfant de 6 ans, c'est extrêmement impressionnant. Et sans la nature qui vous aide, c'est quasiment impossible. Donc, vous avez accéléré quelque chose qui serait arrivé probablement naturellement. Maintenant, il ne faut pas que ça le traumatise.
Oui, voilà, c'était ma question. J'allais vous dire, professeur, est-ce que d'exercer une pression alimentaire comme ça sur un enfant qui peut avoir des problèmes de poids, entre guillemets, ça ne peut pas créer des soucis psychologiques, puisque vous avez, on disait, une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge cette pathologie. Est-ce que pour plus tard, ça peut ne pas créer des soucis psychologiques, entre guillemets?
Alors, heureusement, il va probablement rester mince parce que ses parents sont minces, donc ça sera oublié. Et je suis sûr que cette maman a été très douce pour faire
oui,
ça.
Oui, certainement, non, bien sûr.
Rigide comme ça. Et voilà, maintenant, je dirais, c'est pas à conseiller à tout le monde, parce que lorsque l'évolution est défavorable, là, comme vous dites, ça risque de le traumatiser à vie. Là, l'évolution a été favorable et restera probablement favorable. Donc, l'enfant ne va pas être traumatisé, il va vite oublier.
Est-ce que votre fils, Cathy, continue à faire attention à son poids? C'est-à-dire,
oui. Dans...
Ah, voilà.
Oui, oui, oui. C'est quand même, bon, c'est ancré en lui. Il privilégie... les bons aliments, les légumes, il sait faire la part des choses. Non, je pense que, bon, quelque part, je l'ai forcé dans cette direction. Et bon, je veux... Voilà.
Vous en félicitez.
Ben, je m'en félicite. Ben, je suis contente de le voir beau et épanoui, alors qu'à 7 ans, c'était un traumatisme. On l'appelait Bouboule. Je vous dis pas quand il rentrait à la maison. C'était des pleurs. Moi, j'en souffrais encore plus. Et ça a été une année... Enfin, ça a été jusqu'à ses 7 ans. Ça a été difficile de le voir mal dans sa peau, de pas vouloir aller faire du sport parce qu'on allait se moquer de lui. Ah non, 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 non.
On alors, va parler de la grossophobie hein, tout à l'heure, parce que effectivement...
Voilà. S'il faut passer par là... pour accélérer les choses, eh ben, je suis contente de l'avoir fait parce que je vois mon fils, il est épanoui, il est beau, et enfin, il est beau comme toutes les mamans qui sont beaux leurs enfants. Hein. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, il est bien dans sa vie, dans sa peau.
Bon, ben, très bien.
Eh ben, ça... L'autre chose, madame, c'est que votre enfant a bien évolué. Moi, j'en ai vu plein, hein, des enfants qui étaient gros quand ils avaient quelques années et qui ensuite ont spontanément maigri sans que les parents ne fassent rien du tout. Donc, vous, ça s'est bien passé. Donc, il y aura pas de séquelles psychologiques.
Oui.
Malheureusement, quand ça se passe mal, ce qui n'est pas rare, là, il garde des séquelles psychologiques. C'est pour ça que c'est malheureusement pas un conseil que je peux donner d'être aussi rigide, parce que quand ça se passe mal, c'est terrible pour l'avenir.
Bon. Oui, non, je voulais pas donner un conseil, je voulais juste...
témoigner, non, mais on est là pour ça, hein. Voilà, on témoigne.
Témoigner, mais voilà, on en est passé par là, pour le voir beau et épanoui, je pense que les parents aussi ont un rôle à jouer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci pour votre témoignage, Cathy. On a un autre appel. Bastienne, bonjour.
Allô?
Bastienne, est-ce que vous pouvez baisser le poste, s'il vous plaît?
Oui. Voilà, c'est fait.
Merci.
Oui.
Non, j'entends encore. Est-ce que vous pouvez carrément éteindre votre poste,
oui,
parce qu'on on s'entend derrière, c'est assez désagréable.
Oui. Ok, c'est fait.
Merci. Alors, Bastienne, vous avez une question ou un témoignage, peut-être?
Non, c'était surtout une question.
Oui.
J'ai une personne très proche, mais qui a, là je vois qu'on parle beaucoup de jeunes, mais qui a une soixantaine d'années et qui a pour moi un problème d'obésité parce qu'elle a une quinzaine de kilos en trop, vous voyez, et elle n'arrive pas, évidemment, à se réguler et à perdre du poids. Elle ne veut pas entendre parler d'intervention. Et je voulais savoir si à cet âge-là, il s'agissait peut-être un petit peu de voir quelle était la cause de ces problèmes de surpoids.
Alors, le professeur Tognon est un pédiatre, hein, mais...
Oui,
vous avez dit 60 ans, j'ai bien compris.
Oui, oui.
Oui, alors je suis pédiatre, hein, donc je n'ai aucune expérience.
Non, mais c'est pour ça. Je me suis dit, on parle beaucoup d'enfants, c'est certainement...
Oui, c'est l'obésité infantile aujourd'hui, Bastienne. Okay. Mais on fera des émissions sur l'obésité adulte, bien évidemment.
D'accord.
Et les problèmes sont totalement différents. Notamment pour la régulation du poids qui est beaucoup moins bonne à 60 ans et puis surtout les complications qui là existent à 60 ans, diabète et autres complications.
Oui, bien sûr.
On doit laisser un enfant tranquille, autant à 60 ans, en cas de facteur de risque associé ou de complications, la perte de poids est indispensable.
D'accord. Mais écoutez, je vous remercie.
Merci Bastienne pour votre appel et à très bientôt. Alors, professeur, on voyait tout à l'heure le témoignage de Cathy qui nous disait qu'elle avait vraiment exercé une pression alimentaire sur son fils. Dieu merci, ça a marché. Est-ce que, justement, vous prenez en charge aussi les parents quand vers 8-10 ans, il y a une demande? Est-ce que les parents aussi sont pris en charge?
Alors, c'est très important, oui. On les prend en charge à double titre. D'abord, parce que c'est eux, bien évidemment, qui vont agir sur l'alimentation. Et deuxièmement, on les rassure. Parce que là, l'histoire de Cathy, elle paraît extraordinaire. On a l'impression que c'est grâce à elle que l'enfant a perdu du poids. En réalité, je suis convaincu que cet enfant aurait perdu du poids spontanément.
D'accord.
Et elle a peut-être accéléré, mais voilà à quel prix. Donc, on prend en charge les parents et surtout on les rassure en disant, voilà, il y a des chances que ça évolue spontanément favorablement, mais il y a aussi des risques que ça ne soit pas le cas. Et c'est pas grave. C'est ça qu'on essaie de faire.
Mais c'est vrai que pas tout le monde, professeur, n'a la chance. Alors là, on a la chance, nous, de vous avoir sur notre antenne et vous répondez à nos auditeurs. Mais c'est vrai que pas tout le monde ne réagit comme vous face à l'obésité. On en parlait tout à l'heure. Vous avez certains de vos confrères qui sont super alarmistes et qui continuent de l'être, d'ailleurs. Et c'est vrai que pour nous, parents, puisque je suis maman, c'est vrai que c'est compliqué quand on a en face de soi un professionnel qui est super alarmant. C'est pas évident.
Ah, vous avez tout à fait raison. C'est même, on essaye de faire beaucoup de formations à nos confrères pour les rassurer, mais malheureusement, les médias, d'autres confrères, voire des collègues qui ont eux-mêmes un discours très alarmiste, et ça se répercute sur les familles. C'est terrible, hein. Vous savez, dans ma consultation, je ne vois pas que des enfants obèses, je vois des enfants qui souffrent de maladies graves, d'enfants qui risquent de mourir. Mais les seuls qui pleurent à ma consultation, c'est les enfants obèses, tellement ils souffrent moralement. Donc c'est vraiment cette souffrance, cette grossophobie que vous avez prononcée tout à l'heure, qu'on essaie que nous, dans le service, de combattre depuis 30 ans.
Et comment combattre justement cette discrimination qui bouleverse les enfants et qui sont souvent victimes aussi sur les réseaux sociaux, par exemple?
En informant, c'est ce qu'on essaie de dire. On dit que c'est pas des enfants laxistes, c'est pas des enfants fainéants, c'est pas des enfants gourmands. Tout à l'heure, Cathy parlait de gourmandise. C'est des enfants qui mangent davantage. C'est des enfants qui aiment manger. Encore une fois, ils sont programmés pour grossir et manger davantage. Mais c'est pas des gens qui n'ont aucune volonté. C'est ça, on les affuble souvent d'avoir aucune volonté, de se laisser aller, de ne pas bouger, de rester les fesses assis dans le canapé. Tout ça, ce sont des images terribles.
Enfin, sédentarité, malbouffe, bon, le duo infernal, oui, mais pas que, quoi.
La malbouffe, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. On a parlé de l'émission précédente. La malbouffe, c'est ce qui amène à des complications sévères. Et aujourd'hui, le végétalisme, voilà, une véritable malbouffe. C'est-à-dire, ça amène des complications sévères. La malbouffe, ça veut rien dire. Les enfants obèses que je vois dans le service, au contraire, quand ils viennent nous voir, ils ont déjà fait attention.
Ah oui, les pauvres.
Et donc ils comprennent pas. Ils disent pourtant je fais attention. Mon copain qui est à côté, qui boit des sodas toute la journée, qui mange des biscuits toute la journée, qui mange pas une goutte de légumes, qui passe sa vie devant les jeux télé, lui il est tout mince et moi qui fais exactement l'inverse, je suis gros. C'est une injustice
c'est
de la
nature. C'est une injustice génétique. Et justement, est-ce qu'il y a des tests génétiques qui sont pratiqués?
Alors, pour l'instant, ça reste du domaine de la recherche. Donc, on est le seul service qui faisons ça de manière, j'allais dire, assez régulière. Et on ne peut pas aujourd'hui conseiller de faire des tests génétiques. On est qu'au balbutiement des découvertes génétiques. Dans les décennies qui viennent, on va démembrer tout ça. Mmh. Et surtout, grâce à ça, trouver des nouvelles thérapeutiques efficaces, comme ça a été le cas dans notre équipe, où grâce à des anomalies génétiques qu'on a retrouvées chez certains enfants, eh bien, on a trouvé une molécule qui va corriger cette anomalie génétique, un médicament qui va corriger cette anomalie génétique et qui fait maigrir les enfants. Donc, c'est ça l'avenir. C'est trouver toutes les causes génétiques qui mènent à l'obésité, puis ensuite travailler dessus pour chercher des médicaments qui vont réussir à contrecarrer ces anomalies génétiques et guérir enfin l'obésité.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme moyen, finalement ?
Aujourd'hui, on a des moyens très simplistes, c'est-à-dire leur imposer un régime restrictif, c'est-à-dire manger moins, ne pas manger à leur faim. Alors après, il y a des techniques pour que la frustration soit moindre.
Mm-hmm. Bien entendu, on parle quand même d'enfants. Hein.
Exactement. Donc les techniques comportementales, c'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'ils vont manger à leur faim, donc on les fait interrompre le repas à un moment où ils ont une satiété incomplète, mmh. et puis on les aide en mangeant beaucoup de produits carnés, ce qui va avoir un effet rassasiant, des produits laitiers à 0% pour assurer les apports en calcium, tout en assurant un gros apport protéique. Voilà, on a des techniques assez simples, on les fait bouger un peu davantage, même si c'est pas indispensable. Et voilà, on a des techniques qui sont très limitées, avec une efficacité qui l'est tout autant.
Merci, merci professeur. Une dernière question avant de conclure. Quel regard vous portez sur l'engagement des pouvoirs publics justement dans le combat contre l'obésité ?
Un mauvais regard. Ça dépense énormément d'argent public. On sait aujourd'hui que toutes les mesures de prévention qui ont été faites sont totalement inefficaces. C'est pas trop grave, c'est juste de l'argent. Moi, ce que je déplore, c'est que à force de faire croire aux gens qu'on peut prévenir l'obésité, on a augmenter la stigmatisation, la souffrance des familles d'enfants obèses, la culpabilité des enfants obèses. Et je pense qu'il faut arrêter de donner de l'argent à tous ces moyens de prévention qui sont totalement inefficaces et les orienter plutôt vers la recherche, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer la santé de ces enfants, et puis surtout vers l'information. C'est ce qu'on a fait avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des enfants comme les autres. C'est une injustice de la nature et c'est pas des enfants feignants et qui n'ont pas de volonté. Il faut changer le regard sur les enfants obèses pour diminuer leur souffrance. Et voilà vers quoi l'argent devrait être orienté plutôt que ces mesures de prévention d'une totale inefficacité.
Oui, on a là vraiment l'impression, à voir les chiffres, à voir l'évolution des chiffres, que c'est pas vraiment efficace, effectivement. Un dernier message, professeur, pour conclure en termes de prévention.
On n'a aucun moyen.
Prévention, je dirais vraiment déculpabiliser, hein, voilà, déculpabiliser les enfants. Surtout, très important.
La prévention, c'est informer les gens que c'est une injustice de la nature et qu'ils portent un autre regard sur les familles d'enfants obèses. Mais on n'a aucun moyen de prévenir ça, malgré tout ce qui est dit, malgré tout ce qui est fait. Ça fait depuis 1960, j'ai retrouvé des publications, 1960, donc vous voyez, de près de 60 ans, et les mêmes mesures sont appliquées aujourd'hui avec la même inefficacité. Arrêtons de dépenser l'argent public à faire n'importe quoi et changeons le regard qu'on porte sur les obèses.
Non, c'était vraiment un message de conseil plutôt que de prévention. J'ai mal employé le terme, mais voilà, hein, vraiment adapter les habitudes alimentaires, vraiment, voilà, surtout ne pas stigmatiser votre enfant, ne pas faire de pression alimentaire sur votre enfant. Ils en ont assez, hein, avec tout ce qu'ils entendent. Merci beaucoup, professeur. C'est déjà la fin des experts. On vous retrouvera pour d'autres émissions. Merci à toute l'équipe, Théo à la technique, Patricia au standard. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre site France Bleu RCFM et sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Et demain, dans Les Experts, on parlera d'un autre sujet qui perturbe les Français, c'est le sommeil.